Bonjour à tous et à toutes. Bien, nous allons aujourd'hui aborder la deuxième partie, on va dire, de ma petite série, et qui va sortir un tout petit peu de, on va dire, l'habituel pour moi, puisque je vais vous parler, grosso modo, de géopolitique. Hein, donc, chose que généralement je ne discute absolument pas dans mes délires. Mais bon, il y a des fois, il y a quelques incontournables. Et pour comprendre ce qui se passe véritablement en ce monde et comment la 4D est en train de s'installer, on va dire, sur cette planète, eh bien, il faut regarder, on va dire, les faits. Parce que, bien sûr, les matérialistes de 3D ne considèrent la réalité qu'en fonction des chiffres donnés, qu'en fonction de l'économie, qu'en fonction du travail, qu'en fonction du chômage, qu'en fonction des guerres, des famines, etc. Donc pour eux, le monde, c'est ça. Et ce qu'ils ne captent pas, bien sûr, c'est tout ce qui se passe au-dessus, à un autre niveau dimensionnel. Et bah, forcément, n'ayant aucune, comme on dit, profondeur de champ, hein, c'est comme un joueur d'échecs, au lieu d'avoir 2-3 coups d'avance, il en a zéro. Donc, grosso modo, il se fait tailler des croupières à chaque fois qu'il avance un pion. Donc là, l'objectif de ce délire d'aujourd'hui, on va dire, est de vous apporter, on va dire, quand même des éléments qui vont vous permettre d'avoir une vision de comment l'humanité, on va dire, évolue, son système économique, puisque d'une certaine manière, vous le savez que l'argent est une énergie qui circule entre les individus, et de savoir en fait comment tout se résume au niveau de l'humanité à un problème d'énergie. Donc d'énergie, on va voir que ça va être premièrement le pétrole principalement, hein, bien sûr, après vous aurez le nucléaire, et bah, aussi toute la monnaie d'échange qui va avec, c'est-à-dire l'argent, et donc la finance, et donc les banques. Et donc quand on ne voit que tout ne tourne qu'en fonction du fric, entre guillemets, on peut donc comprendre que la notion d'énergie pétrole va prendre une importance et que pour faire gober le tout, bien sûr, à cette humble humanité, eh bien, on va l'occuper avec des petites guéguerres religieuses. Mais vous allez voir, c'est vraiment fait, c'est un jeu de gamin, mais quand on a le nez dedans, comme derrière l'autre, on ne voit rien du tout. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir une vision un petit peu plus élevée du débat, comme on dit, pour voir qu'en fait, tout ça, ce ne sont que des énergies qui sont en train de s'affronter, se mélanger, qui sont dus à simplement à ce changement dimensionnel dans lequel nous sommes effectivement rentrés. Donc, commençons par le début du commencement, comme on dit, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale. Alors, la première guerre mondiale 14-18 n'était simplement qu'une petite boucherie afin que les sidérurgies allemandes tournent à fond ainsi que les françaises, puisque tout ça c'était les mêmes actionnaires, les mêmes, on va dire, multinationales de l'époque, hein, style Rothschild, etc. etc. Donc, ces gens-là, comme dirait l'autre, ils ont fait une petite guéguerre parce que disons qu'il y a un type qui s'est fait flinguer. On va dire en Yougoslavie à l'époque, enfin du côté de par là, il s'est fait flinguer, et puis ça y est, puis ça a déclenché, et puis bon, bah, 3 millions de morts après, hein, gaz sarin avec et compagnie, gaz moutarde et compagnie, bien, bah, ça a bien fait tourner les usines et tout ça. Bien. Vous voyez, c'était tout con, hein, c'était juste une histoire de business, disons qu'en Europe, puisqu'à l'époque, dans le monde, l'Europe était vraiment la puissance, on va dire, la plus forte. On va dire au niveau du monde, hein, c'est-à-dire qu'il y avait la France, il y avait l'Allemagne et bien sûr l'Angleterre. Et donc ces trois pays ont globalement, surtout on va dire la France et l'Angleterre, ont colonisé quasiment des continents entiers. Vous n'avez qu'à aller voir les Africains et tout le Moyen-Orient, vous allez comprendre qu'il n'y a que des Français, enfin disons que ça a été colonisé principalement par des Français et des Anglais, et donc aujourd'hui, eh bien, tout ça ressort un peu sur la table parce que, bien sûr, d'autres pays européens ont quand même été allés voir quelques pays africains, style Congo-Belge, etc. Enfin, bon, il y a eu quand même des petits trucs, mais bon, globalement, quand même, on peut dire que dans ces derniers siècles, on va dire, la France, hein, on va dire 19e siècle, a quand même, on va dire, colonisé quand même lourdement. Bon, avant c'était un peu l'Espagne, hein, qui s'est tapé quand même toute l'Amérique du Sud, avec les Portugais. Bon, enfin bref, c'est des vagues, mais grosso modo, tout se passait en Europe. Donc forcément, suite à la Première Guerre mondiale, ils étaient à genoux, et donc les Ricains en ont profité, forcément. C'était des colonies, hein, je vous signale. Et globalement, eh bien, ils ont profité, on va dire, grosso modo, de la faiblesse de l'Europe, parce qu'ils n'arrêtaient pas de se taper dessus. Vous savez, c'était la triangulaire Allemagne-France-Anglais. Hein. Donc, de toute façon, s'il y en avait deux qui se cognaient, il y avait forcément un troisième. Moi, j'avais appelé ça, dans un de mes articles, la valse, enfin la danse. C'est-à-dire que si la France, on va dire, roule avec l'Allemagne, c'est l'Angleterre qui tape dessus, enfin, on est en guerre avec les Anglais, et réciproquement, si on est associé avec les Anglais, eh ben, on est en train de taper de l'Allemand. Mais bon, bref, on se cognait tous les uns sur les autres, mais en triangulaire, hein, toujours. Donc, le truc, c'est que il y avait donc un grand pays, une union, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui entrait dans le débat à cette époque-là, hein, et ça s'est fait surtout donc à la Deuxième Guerre mondiale, puisque la Deuxième Guerre mondiale a fait que les Ricains ont vraiment pris le dessus, et que bah, en face, il fallait bien sûr une opposition, qui était donc l'URSS. Donc le monde s'est séparé en deux morceaux, d'un côté le capitaliste pur, et de l'autre côté le communiste pur. Donc c'était simple, le monde s'arrêtait à pas beaucoup de choses, puisque ça relevait, on va dire, de l'hémisphère nord. Alors, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et savoir que cette ère du Verseau a déjà commencé au XXe siècle, eh bien, allons voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Donc, avant, quand j'étais à l'école, eh bien, voilà ce qu'on m'avait appris. On m'avait dit, voilà, les États-Unis, number one, hein, c'est eux qui ont le plus gros chiffre d'affaires, enfin, PIB, etc., etc., suivi de l'URSS, ensuite suivi du Japon, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie. Donc, vous voyez, c'était relativement clair, et tout le monde roulait comme ça. Alors, bien sûr, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, bon, on va dire, la guerre froide. C'est pour ça que j'ai mis avant 1991, car en 1991, l'URSS a été, on va dire, explosé en de multiples états, hein, puisque le mur de Berlin est tombé en 89, je vous signale. Donc forcément, après, bah, dans les autres tableaux que je vais vous montrer, on n'a plus retrouvé l'URSS, puisque elle n'existe plus en tant que telle. Hein. Nous allons retrouver un certain nombre de pays, mais j'en trouverai un tout petit peu plus loin. Donc, ici, donc, États-Unis, number one, URSS qui suivait derrière, et c'était normal, 250 millions d'individus à l'époque, là, 250 millions, ça faisait quand même du poids. Le Japon était dans la barre des 100-110 millions, et puis bah, l'Allemagne, là, si on parlait de l'Allemagne de l'Ouest, on va dire, se trimbalait peut-être à 60 millions d'habitants, hein, et puis la France, on était dans les 50 millions globalement. Bon, le Royaume-Uni est un peu moins, mais bon, grosso modo, vous voyez, donc, il était évident que quand on a 60 millions, voire 50 millions d'individus, ben, on a du mal face à 250, hein, ici, quand même, c'était quand même du gros, c'était du lourd. Donc, c'était avant, donc, 1991, voilà comment était le monde. Alors, bien sûr, quand nous regardons sur la carte du monde, eh bien, on peut voir qu'il y avait effectivement que l'hémisphère nord qui était représenté, puisque le sud, c'était que globalement des colonies, hein, comme je disais. Donc, tous ces états-là, enfin, dire, tout ça avait été colonisé par les Anglais et les Français principalement, bien sûr, avec quelques Européens dans le tas. On avait bien sûr tout ce qui était tout ça, les pays arabes, tout ça, bah, c'était surtout par les Anglais et les Français, bien sûr. Donc, vous voyez, parce que les Portugais s'étaient barrés un peu par là, et puis là, et puis bon, les Espagnols par ici. Donc, mais globalement, toute cette partie-là était quand même relativement dominée par la France et l'Angleterre. Sachant que l'Allemagne, c'était l'Empire ottoman, c'est-à-dire en fait tout ce qui touchait à l'intérieur des terres, allant jusqu'à la Turquie, bien sûr, hein, l'Empire ottoman, et c'est pour ça que c'était le fameux Troisième Reich. Donc, Deuxième Guerre mondiale, comme grosso modo, notre très cher Hitler a voulu, bien sûr, rattacher tous les morceaux qui étaient partis entre-temps. Hein. Donc, il faisait que essayer de rassembler. Donc, c'est pour ça qu'il a fait l'invasion de la Pologne, tout ça, l'Autriche, et puis bah, il a poussé vers le sud. Hein, et puis, il s'est dit, tiens, si j'allais pousser un peu du côté de chez les Anglais là-bas, voilà, hein. Donc c'était simple, les Allemands s'occupaient de cette partie-là, et puis les Français et les Anglais s'occupaient du reste. Pendant que les Espagnols et les Portugais s'occupaient aussi d'un autre monde. Donc ici, bah, ce pays-là, ce continent-là, étant donné qu'il était vachement vaste, etc., bah, il vivotait sur lui-même, entre guillemets. Donc en 14-18, on a fait un peu appel à eux, et puis bah, après, en 39-45, bah, ils ont pris, on va dire, le dessus. Donc on voit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quasiment deux blocs. Et puis, bah, comme dirait l'autre au centre, hein, bah, on a vécu entre deux chaises ici. D'où de multiples, on va dire, gouvernements suite à la Deuxième Guerre mondiale, parce que bah, en France, on était moitié coco et moitié capitaliste. Et d'ailleurs, ça n'a pas véritablement changé cette affaire. Hein, on a toujours 50% d'un côté à gauche et 50% à droite. Donc, il n'y a jamais eu 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Donc, on était vraiment au milieu de la balance. Alors, voilà, donc, grosso modo, déjà, ça, c'était l'État avant 1991. Car, une fois que le bloc soviétique a été démantelé, eh bien, il y a eu une nouvelle vision des choses. Donc, avant, il y avait des participants, on va dire, aux réunions. Alors, il y avait le G6, le G7 et puis après le G8. Hein. Donc, G6, ça devait être donc la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis. Et puis, là, le Canada a été, c'était le pays qui invitait à cette époque-là. Donc, il était forcément autour de la table en tant qu'invité, puisque c'était là où se déroulait la réunion. Et puis, bah, d'une certaine manière, si vous regardez bien, partir de cette époque-là, la Russie n'était pas là. Et c'est normal, puisque ici, on était purement, excusez-moi, capitaliste. Donc, nous allons voir qu'il y avait des choses très importantes qui ont été faites, c'est-à-dire que ici, les États-Unis ont le dollar, donc ils ont imposé leur monnaie au monde entier. Ici, le rouble, il a été dans les matitis, on n'en parlait pas, hein, il n'était même pas, on va dire, traduisible en d'autres monnaies, hein, c'est-à-dire, enfin bon, je ne sais plus quel était le mot. Là, il y avait les yens, là, il y avait les Deutschmark, là, il y avait le franc français, là, il y avait la livre sterling, et puis là, il y avait, je ne sais plus quoi, les lire. Mais bon, les lire, c'était comme dans, on va dire, un délire, tellement qu'il y avait de zéro à leur truc. Mais bon, globalement, chaque pays était une nation qui avait sa monnaie. Donc, comme dirait l'autre, ils pouvaient jouer de la planche à billets en fonction, on va dire, des tensions économiques qu'il pouvait y avoir. Ils pouvaient, on va dire, dévaluer la monnaie, etc., etc. Donc, chaque État pouvait, on va dire, réguler la tension économique. C'est-à-dire que quand il y avait des tensions, bah, ils pouvaient, on va dire, faire tourner la planche à billets plus facilement afin de rétablir, enfin bon, ils dévaluaient la monnaie, comme ça d'un seul coup les dettes descendaient et puis devenaient d'un seul coup plus compétitifs. Nous allons voir que maintenant tout ça c'est du flanc puisque nous étant dans l'Union européenne avec l'euro, et eh ben le français il peut plus rien dire quand on dit bah, ici on faisait tourner la planche à billets comme les ricains, parce que vous allez voir, les ricains font tourner la planche à billets, les japonais font pas tourner la planche à billets. Le Royaume-Uni fait tourner la planche à billets parce qu'ils ont tous des monnaies qui ne sont pas de l'euro. Et on va voir quelles en sont les conséquences après. Donc, voilà, grosso modo, quel était l'état du monde avant 1991. Les choses étaient claires et bien sûr, comme on s'était tapé deux guerres, bah, globalement, on était toujours dans la reconstruction du pays. En d'autres termes, capitalisme à fond les manettes, on produit de masse et puis on va essayer de trouver des consommateurs. Donc on a connu les Trente Glorieuses, tout ça, qui ont bien sûr se sont fait arrêter par les chocs pétroliers. Et nous allons revenir à cette information capitale des chocs pétroliers, parce que c'est à partir de ce moment-là, comme dirait l'autre, qu'on a commencé à serrer les fesses. Donc, regardons maintenant un petit peu plus en avant comment en fait la Russie s'est fait éclater. Donc, voilà, le bloc soviétique, excusez-moi, il faut vraiment faire une différence entre les deux. Eh bien, ici, bah, on voit que le bloc soviétique prenait quand même un paquet de place. Hein, parce que, bon, ici, c'est la Chine, ici, c'est le Tibet. Si vous regardez bien, ils partagent beaucoup, comme on dit. Hein, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et nous allons voir sur d'autres cartes que, bah, ici, on a le droit à l'Iran. Hein, ici, c'est l'Irak. Enfin, bon, bref, donc, ça touchait. Donc, l'Empire, le bloc soviétique, était quand même un bloc très, 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 très important. Sachant que, grosso modo, ici, Mao peinait à donner à bouffer à sa population. Donc, bref. Ici, voilà tous les États. Donc, il y avait 15, c'est devenu 15 États. Alors, bon, je suis sûr qu'il y en a des tas que vous ne connaissez pas. Hein, mais bon, comment dire, à la télé, à la langue, on peut en apprendre, mais vous allez comprendre pourquoi ces différents pays se sont fait, on va dire, plus ou moins attaquer, enfin, je veux dire, utiliser, entre guillemets, par les Américains pour, en fait, déstabiliser encore plus, bien sûr, isoler ce qu'on appelle la Russie. 11, hein, c'est la Russie. Hein, donc, grosso modo, eh bien, ils ont fait un maximum pour aller déstabiliser. Donc, on parle de Russie. On a été faire, enfin disons que là, les derniers coups, c'était du côté de l'Ukraine. Enfin bref, quelque part, on essaye de bouffer, comment dire, qu'il y ait un impérialisme pur et dur, c'est-à-dire de la monnaie, de la finance, de la banque, et qui tout ça, bien sûr, sous l'aspect dollar. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la Russie commerce quasiment, on va dire, jusqu'à au moins 60% de son économie tourne en dollars. Ça veut dire qu'ils sont complètement l'esclave du système actuel. Donc, on peut comprendre qu'il y a des bisbilles dans l'air et nous allons voir pourquoi ces différentes bisbilles amènent à la vue de tous, on va dire, des changements dans la géopolitique européenne et mondiale. Alors maintenant, je vais passer à l'autre. Donc ici, nous étions donc l'éclatement, enfin avant l'éclatement de l'URSS, hein, et nous allons passer, donc ici, nous avions, on va dire, les pays du G7, hein, G7, G8, c'est-à-dire, voilà, hein, juste l'hémisphère nord, et puis le reste, c'était, on a colonisé, on ne veut pas savoir ce qui se passe. Enfin, on ne veut pas savoir, on les exploite à fond les manettes, parce qu'on doit se faire du pognon. Hein, dites-vous bien que la colonisation d'un pays ne se fait pas en disant je t'envoie des roses. Hein. C'est-à-dire on envoie de l'armement, on envoie des armées, on fait des trucs et on flingue. Hein, donc le passé colonial de la France, c'est quand même assez, on va dire, assez lourd en termes de morts. Hein. Ça, il faut que vous compreniez. Et si aujourd'hui nous nous faisons, on va dire, relativement envahir par, on va dire d'une certaine manière, beaucoup d'Africains, d'Africains ou de Nord, enfin d'Africains, maghrébins y compris, dites-vous bien que tout simplement ce sont des retours plus, ce qu'on va appeler karmiques. Hein. Tout bêtement, hein, c'est pas la peine d'essayer de tergiverser, c'est-à-dire que vous allez voir qu'effectivement, un certain nombre d'entités qui sont incarnées dans des corps, on va dire, noirs, hein, de couleur noire, eh bien, viennent chez nous tranquillos. Pourquoi? Parce que nous, en étant incarné en Europe, eh bien, on avait des choses à régler avec eux. Mais bon. Hein. Alors, maintenant, eh bien, la chose a donné, a changé, puis la donne a changé, puisque nous sommes, on va dire, en fin 2015, et ici, j'ai noté uniquement avec les États-nations. Alors, tous ces chiffres-là sont piqués, excusez-moi, sur Wikipédia, tout simplement. Donc, j'invente rien. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration quand même assez particulière, puisque eh ben, on voit qu'il y a quand même des choses qui ont bien changé dans l'affaire. C'est-à-dire que d'abord, les Ricains ne sont plus les premiers. Ah. C'est-à-dire que c'est pas eux qui font le plus de business maintenant. Donc, ça change. Alors, ils étaient les chefs, mais maintenant, ils ont un problème. C'est qu'ils ont quelqu'un en face et qui ne s'appelle pas le bloc, l'URSS. Alors, les heures, ils vont dire, c'est les communistes. Mais c'est les communistes qui, comme dirait l'autre, ont dépassé les maîtres, dans le sens que c'est un communisme qui ont versé, en fait, dans le capitalisme. C'est-à-dire, ils disent, on reste communiste, mais n'empêche, on veut faire comme du business. Et donc, on voit ce que ça a donné. Hein. Donc, ils ont dépassé, et c'est normal, puisque que voulez-vous que fassent 300 millions d'individus, puisque, bon, entre-temps, quand même, les Ricains, ils sont quand même un peu. Ils ont eu le droit à pas mal d'immigration, on va dire. Eh bien, ils sont passés à 300 millions. Que voulez-vous que fassent 300 millions d'individus face à 1,5 milliard? Bon, donc on sent que là, on a une problématique. La deuxième, c'est que ben, ceux qui suivent derrière, c'est 1 milliard d'individus, un petit, même un peu plus, hein, je crois maintenant, c'est là. Vous savez, c'était pas là, quoi. Inconnu au bataillon. Tiens, l'Inde, ah, ils sont juste derrière. Ah oui, d'accord. Et puis ben, le Japon, il se retient comme il peut. Alors lui qui était déjà le troisième, il passe en quatrième. Du roi, il a perdu qu'une place. C'est pas un problème. Mais bon, dans ce classement-là, on va dire que la Chine, elle était très loin. L'Inde aussi, hein, je ne sais pas où ils en étaient, mais loin, 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 loin. Hein. Et donc le Japon. Alors bien sûr, l'Allemagne a pu conserver sa place, tout en sachant que l'Allemagne, quand même, a récupéré 30 ou 35 millions quand même d'Allemands de l'Est. Donc ça veut dire qu'ils sont passés une population de 90 millions. Ça commence à faire du monde là quand même. Hein? Et puis, bah, tiens, la Russie arrive, et la Russie, quand même, 300 millions quand même d'individus. Donc on voit que le Japon, ça doit tourner dans les 115 ou 120 millions actuellement, je pense. Et puis, clac, 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 oh, pof, Brésil, d'où il sort celui-là, là? Hein? Et puis, l'Indonésie. Comment ça, l'Indonésie? Alors, l'Indonésie, ça doit être du 130 millions ou 140 millions, si ce n'est pas du 150 millions d'individus. Pof, la France, 9e position, avec ses malheureux 65 millions d'individus, ça fait pas lourd quand même dans la balance. Et puis, bah, le Royaume-Uni, lui, il suit comme il peut, hein, comme dirait l'autre. Alors, soi-disant, ils ont passé devant nous cette année, mais c'est pas gênant parce que de toute façon, c'est pas eux qui gagnent, c'est nous qui freinons. Donc, bon, et puis l'Italie, s'enterre bien sûr maintenant un peu plus loin. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, les nations, on va dire, hein, les États-nations, eh bien, c'est un changement de donne absolument différent. Donc maintenant, eh ben, on est passé du G8 au G20. C'est la classe. Hein. Donc on se rend compte que là, il y a un rééquilibrage effectivement par rapport à la population. Il y a un rééquilibrage et on voit que quand même l'hémisphère sud, il commence à se faire connaître. Hein, puisque je vous signale, l'Indonésie, c'est là. Hein, l'Inde, la Chine. Bon, l'Australie, elle en fait partie maintenant d'une certaine manière. L'Amérique du Sud, le Brésil, ça doit être l'Argentine. Hein, l'Argentine. Donc on voit qu'il commence quand même déjà là. Et surtout, là, enfin, un truc qui est complètement dingue, c'est que, vous voyez, ils sont très forts, la Chine, hein, les États-Unis aussi, l'Inde, etc. Mais en fait, si nous prenions en compte non pas le pays-nation, mais les entités économiques, eh bien, ça serait l'Union européenne qui serait la première au monde. En termes financiers. Ouais. Ça veut dire que là, autant du ouais, la France, ouais, au Royaume-Uni, ouais, mais si on met l'Union européenne, c'est pratiquement presque 600 millions d'individus, eh ben, ils sont au top là. Alors, le PIB, ben, ils ne le mettent pas. Hein, hein. Enfin, disons que je ne l'ai pas trouvé dans le truc, mais une chose est claire. Hein, disons que par rapport à 2015, je l'ai trouvé par rapport à 2009, mais ils sont devant tout le monde. Et donc vous allez comprendre maintenant pourquoi les Ricains font tout pour casser l'Union européenne. Parce qu'ils ont un intérêt fondamental. Mais bon, ça, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc on comprend bien que là, les Ricains, ils sont plus en deuxième position. Ils en sont arrivés en troisième, tout en sachant que cette force-là est très nettement supérieure à eux. Pourquoi? Parce que les Ricains sous-traitent tout à la Chine. À quelque chose près. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus véritablement d'industrie, sauf celui de l'armement. Hein, parce que ceux qui fabriquent de l'armement, ils sont là. Hein. Bon, il y en a d'autres qui sont mis dans la liste. Hein, qui sont, on n'est pas resté tout seul, puisque on sait que l'armement est quelque chose de très, 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 très juteux. Sauf quand on est français, qu'on essaye de vendre des bateaux à nos copains russes, et que derrière, on claque des talons par rapport aux Ricains pour en fait se faire avoir totalement. Enfin bon, la totale quoi. Hein? Donc ici, je vous ai mis donc une autre carte qui est celle du PIB par habitant, c'est-à-dire que si on remet tout à peu près, c'est ça le fameux PPA, mais enfin bon, vous inquiétez pas, eh bien ça veut simplement dire le pouvoir d'achat globalement. Hein? Eh bien, quand on regarde le pouvoir d'achat, on voit toujours à peu près les pays qu'il y avait là, à quelque chose près, vous savez, bon, Amérique du Nord, on voit que l'Europe est toujours présente, et eh bien tiens là, on a l'Arabie Saoudite et le truc là. Mais tiens, ceux-là, ils ont du pognon. Ceux-là, ils ont un niveau de vie on ne les voyait pas avant, là. Ah, c'est normal. Puisque ça, c'était grosso modo, il y a eu les chocs pétroliers, hein, 173 et 79. Mais après, ils ont commencé à engranger du pognon, les petits ici. Donc avant, ici, ils n'avaient pas leur mot à dire. Mais ici, économiquement, ils ont leur mot à dire. Puisque aujourd'hui, on va dire que le Qatar et l'Arabie Saoudite rachètent tout ce qu'ils peuvent. Me racheter le PSG, donc pour vous dire. Donc on voit que là, bien que la Chine soit pas dans les tops du top en termes de PIB par personne, vu le nombre, ça fait quand même beaucoup. Ils ne gagnent pas beaucoup, mais vu le nombre, ça fait à la longue un chiffre qui est supérieur au requin. Donc on voit qu'il y a une répartition, enfin je veux dire que déjà on est passé du G7, G8 à un G20, et on voit que la population, on va dire, mondiale commence à élever son niveau de vie assez sérieusement quand même. La problématique, c'est que le modèle que ces pays suivent n'est pas compatible avec le modèle capitaliste pur et dur, dans le sens que ici, c'est une attitude de prédateur, c'est-à-dire on prend, et on vend, mais on prend. Hein. Il est évident que le jour où les Chinois arriveront au niveau de vie d'un Français, bah, c'est simple, la Terre sera morte, puisqu'il n'y aura pas eu assez de ressources, tout simplement, pour donner à bouffer à tout le monde. Hein. Comme pas seulement à bouffer, hein, pour trouver de la ferraille, pour trouver... Tout sera effectivement en rupture. Donc il faudra aller à la conquête de planètes pour aller piller les autres planètes, c'est-à-dire le système colonialiste que l'on a connu ici. Et donc vous imaginez bien que ça, ça ne sera jamais, jamais, jamais permis. Alors, maintenant, regardons un petit peu plus en avant comment cette géopolitique, entre guillemets, a amené des différences par rapport aux dimensions. Parce que les gens, ils disent, ouais, il ne se passe rien, on nous parle du nouveau monde, on parle de ceci, on parle de cela, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'ils veulent rien voir. Mais bon, moi, ce que je vois déjà ici, c'est que avant 1991, on avait ça, maintenant, on a ça. Ça change un petit peu quand même la donne, hein? Et donc on va voir que effectivement le yen est devenu maintenant on peut acheter du yen à l'extérieur, ça s'appelle renminbi, je crois, un truc comme ça. Hein, et puis quand c'est à l'intérieur du pays, on appelle ça du yen. Enfin, pas du yen, du. Oh merde, je sais plus, on s'en fout, pour la monnaie locale de la Chine. Ensuite, eh bien, les Ricains, ils ont toujours leur dollar. L'Inde, ils ont leur monnaie, mais bien sûr que bon, vu le poids, là, ça commence à faire. Le Japon, le yen, bon, il en perd de vitesse totale. Là, l'Allemagne, bah, elle n'a plus de monnaie, hein, c'est évident, puisque c'est de l'euro. Hein. La Russie, elle a son rouble qui a commencé à reprendre du poil de la bête. Et vous allez voir comprendre tout ça. Ici, je crois que c'est du réal, un truc aimé. Bon, l'Indonésie, je ne sais même pas c'est quoi leur monnaie. Bon, la France, c'est que c'est l'euro. Ça, c'est bah, l'euro sterling. Et on va voir qu'il y a une influence énorme entre l'ancien et le nouveau. Parce qu'il y a une guerre, véritablement. Et cette guerre est une guerre purement économique, et nous allons voir pourquoi après. Donc, ici, les États-Unis font tourner la planche à billets à mort. Le Japon n'arrête pas. C'est de la photocopie, hein, c'est de la photocopie, de la photocopie. Le Royaume-Uni de la photocopie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont conservé leur monnaie nationale, qui fait qu'ils peuvent faire tourner la planche à billets autant qu'ils veulent, et ils n'en ont rien à battre du reste. Hein, donc les Ricains rachètent à la tour de bras, comme les Japonais d'ailleurs, rachètent tout ce qu'ils veulent en France au niveau des sociétés, tout, etc. Il faut savoir que le fameux CAC 40, 80, je crois, 15% ou 96% du CAC 40 appartient à des étrangers. Ça veut dire que ce n'est plus français du tout. C'est quand même dingue. On dit que c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, eh bien, quasiment, elles sont toutes. Enfin, elles sont toutes, comment dire, achetées, elles n'appartiennent plus aux Français. Enfin, hein? Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important, mais vous regardez bien, de ce côté-là, quand vous regardez là, la Chine ne fait pas tourner la planche à billets. L'Inde ne fait pas tourner la planche à billets. La Russie ne fait pas tourner la planche à billets. Le Brésil ne fait pas tourner la planche à billets. L'Indonésie ne fait pas tourner la planche à billets. Donc, en gros, tous les nouveaux qui sont dans le classement ici ne font pas tourner leur planche à billets, tandis que tous les anciens ici, ceux qui peuvent le faire, et je peux vous dire que maintenant au niveau de l'euro, eh bien, la Banque européenne fait tourner maintenant la planche à billets. Pourquoi ? Parce que tous les autres ils s'y ont mis, puis ils sont fait, on va dire, toutes ces entreprises, sociétés extérieures, ont racheté à tour de bras les entreprises allemandes, françaises, tout ça, et italiennes, en faisant avec de la monnaie de singe. Donc, quand même, ça leur a fallu du temps quand même pour qu'ils comprennent qu'il fallait qu'eux aussi fassent tourner la planche à billets de l'euro. Afin bah, de se mettre à bout du jour par rapport aux autres et de ne plus se faire racheter. Ça s'appelle faire dévaluer la monnaie. Donc, globalement, aujourd'hui, l'Allemagne, la France, l'Italie, ainsi qu'un certain nombre de pays européens, eh bien, vont voir leur euro dévaluer parce que, entre guillemets, on se fait bouffer par tous les autres. Enfin, par tous ceux qui sont dans un capitalisme pur. Mais maintenant, faut comprendre aussi que les Chinois s'y sont mis, hein, parce qu'ils ont dit, ben, nous on a du pognon, donc on va s'en servir. Hein, et la Russie, pareil, qu'est-ce qu'il y a aussi? Puis bon, là, il n'y a pas les pays comme, on va dire, l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite n'a pratiquement aucune industrie à quelque chose près. Mais elle a du pognon, mais elle a quelque chose d'important qu'on appelle le pétrole. Mais ça, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Donc comprenez que maintenant, il y a le monde d'avant, il y a le monde de maintenant. Et nous sommes dans une situation très différente. Alors maintenant, regardons ça d'un point de vue, on va dire, dimensionnel, globalement, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la 3D et la 4D. Parce que vous allez comprendre une chose en regardant ces cartes et ce que je vais vous annoncer maintenant. Bien, d'abord, ici, quand nous étions au niveau du G7, enfin globalement, ou avant, on était dans une mentalité de dualité, je dis, simple, c'est-à-dire tout ou rien. C'est blanc ou c'est noir. Point barre. Alors, soit tu es un capitaliste, soit tu es un communiste. Alors, bon, il peut y avoir des petites nuances, hein, le socialiste et puis les centristes, mais globalement, on avait une opposition entre l'individu qui dit « je vais gagner du pognon, je vais m'enrichir personnellement » et le collectif. Donc ici, bien, nous connaissions que le collectif, bah, les deux collectifs, on va dire, principaux, c'était quand même la Russie et la Chine. Enfin, le bloc communique, le bloc soviétique et la Chine. Donc, quand vous mettez quand même 1,5 milliard d'individus plus 300 millions là, ça commence à faire du monde quand même sur la balance, et ça représente quand même une certaine surface au niveau de la Terre quand vous comparez par rapport au reste. Donc, c'est une énergie qui est assez particulière. Donc, il y avait cette espèce de dualité simple de tout ou rien qui a amené une dualité forte, ce qui a amené forcément une guerre froide, car il y avait une opposition entre deux visions extrémistes. Et chacun, bien sûr, parlait d'une nation, du pays. Hein? Rappelez-vous, chacun battait sa propre monnaie et donc pouvait faire ce qu'il voulait. Donc il était, et, enfin je ne sais plus quels sont les termes, si je peux vous dire que j'ai des pertes de mémoire, mais qui sont colossales au niveau du dictionnaire. Bon, bref, ils avaient, voilà, la souveraineté. Bon, aujourd'hui, vous pouvez comprendre que la pauvre France qui est là, elle n'a plus aucune souveraineté, puisque dès qu'elle a battu, on va dire, la monnaie de l'euro, hein, c'est-à-dire qu'elle a dit, voilà, on a une monnaie commune entre plusieurs pays qui se sont rassemblés. Résultat, il n'y a plus personne qui peut faire ce qu'il veut. En clair, nous allons abaisser la pauvreté au niveau du plus pauvre de l'ensemble. Eh oui, c'est pour ça que les Allemands rechignent, entre guillemets, au niveau de l'Europe et ont pris un poids colossal parce qu'ils ont bénéficié de deux choses. C'est que d'abord, les frontières étant tombées et grâce à Bruxelles, eh bien, ils ont pu s'expandre, on va dire, économiquement. Donc l'Allemagne fait un très 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 gros chiffre d'affaires avec l'Europe. Donc déjà, elle a bien bouffé tout le monde, enfin elle a pris un maximum de marché, et en même temps, puisque c'est elle la plus grosse, on va dire, économie de l'Europe, grosso modo, elle impose son point de vue. Sachant que maintenant, bah, vous savez qu'en France, nous avons Flamby premier, donc c'est quand même pas la Miss Merkel. Hein? Bref, j'en dis pas plus, sinon ils vont fermer mon blog. Alors, ici, la dualité est simple, ça cogne à mort. Hein, c'est deux blocs, un bloc communiste contre un bloc capitaliste. Hein, ce sont des pays qui se cognent dessus quand même. Donc, nous sommes fortement présents dans l'hémisphère nord, donc ça veut dire qu'un masculin domine fortement. Je vous rappelle que l'hémisphère nord, c'est le mental. Eh oui, parce que l'hémisphère sud, c'est beaucoup plus positif. Et vous allez voir que les pays qui vivent dans le sud sont beaucoup plus collectifs. Hein. C'est-à-dire plus collectifs, c'est-à-dire ils mettent en avant le collectif d'abord et l'individu ensuite. Et donc, ils sont de nature beaucoup plus féminine. Donc là, on voit que l'aspect masculin était totalement... était aux commandes, quoi. Hein. Donc c'était de la 3D pure. Donc il y a eu un impérialisme, hein, c'est-à-dire que on a essayé de coloniser et puis de faire dire aux gens « vous allez bosser, vous allez faire comme nous, on veut que vous fassiez ». Donc le résultat, on y est arrivé, hein, quand même. Hein. C'est un impérialisme qui s'est fait surtout via les multinationales, hein, ça se dit pas comme ça, mais les États essaient de tempérer, on va dire, les demandes de bénéfices, grosso modo, des multinationales. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés à une extrême, c'est parce que maintenant, les multinationales, grâce à leur lobbying, c'est-à-dire de la corruption légale, eh bien, ont quasiment corrompu la totalité des politiciens. Résultat concret, maintenant, Si tu es président de la République, et ben de toute façon, tu n'as rien à dire, puisque ce sont les financiers et les multinationales qui décident de comment doivent gérer les choses. Donc, si vous avez le peuple européen qui dit nous ne voulons pas d'OGM en Europe, et que les Ricains disent nous, on a des entreprises, style Monsanto et autres, qui font de l'OGM, vous allez bouffer de l'OGM et vous fermez vos gueules. Et donc le résultat, eh bien, Bruxelles entérine, oui, nous pouvons accepter l'OGM, point barre, et tous les autres pays doivent s'aligner. Alors bien sûr, on dit, ouais, mais on est en tant qu'État, vous pouvez faire un petit amendement, un machin, un truc qui va interdire, mais de toute façon, à terme, vous allez bouffer de l'OGM. Donc, grosso modo, on voit qu'aujourd'hui, l'impérialisme tel qu'il a été mené pendant toute la reconstruction suite à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, a en fait bouffé tout et dépassé complètement les États. Grosso modo, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de pays. C'est le deuxième bloc que je vais vous mettre là, vous allez le comprendre. Alors bien sûr, ça a permis de mettre en place ce qu'on appelle un système bancaire mondial, le fameux réseau SWIFT, qui est bien sûr totalement ricain et qui est basé sur une monnaie unique qui est le dollar USD. C'est-à-dire USA dollar, US dollar. Donc, et la monnaie d'échange des énergies se fait en pétrodollars. Bien, donc cela étant dit, on comprend que les Ricains ont la main sur tout. D'ailleurs, vous prenez Internet, c'est eux qui gèrent tous les noms de domaine. Donc, il a fallu quand même encore un petit peu de temps pour qu'ils délaissent un petit peu quand même la possibilité aux États, entre guillemets, de pouvoir gérer des noms de domaine. Mais quand même, globalement, ils ont la main mise sur tout ça. Alors après, faut pas s'étonner que la CIA, la NSA et tous les bidules ricains ont foutu le nez partout et qu'en fait, il n'y a aucun secret nulle part. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, ils dominent la totalité du monde. Tout simplement. Donc, ils sont effectivement des impérialistes. Alors, ils ont quand même un problème, c'est que le monde change, comme vous avez pu le voir. Et donc, comme il change, l'économie change. Hein. Les Ricains, là, ils étaient au premier, ils ne sont plus au premier. En fait, là, ils seraient, vous voyez, déjà en troisième position. Donc, ils sentent mal parce que ils sont lourdement mis à contribution, les petits. Et la seule industrie qui fonctionne bien chez eux, c'est le côté militaire. Hein. Pourquoi? Parce que, grosso modo, ils mettent quand même 40% de leur PIB dans l'armée. Hein. Alors qu'un État normal, ça roule à 2%. Donc, on voit que c'est des bidasses totaux, hein, c'est-à-dire ils ne pensent qu'à ça, fabriquer des armes. Et d'ailleurs, grosso modo, aux États-Unis, il y a plus d'armes par individu que partout au monde, c'est-à-dire, je crois que les derniers sondages avaient donné 100,2 armes pour 100 habitants. En France, on doit être à 30 armes par habitant, et encore, ce sont que des chasseurs. Les Ricains, c'est pas juste pour chasser. Hein. Donc maintenant, voyons ce qui se passe par rapport au monde d'aujourd'hui. Eh bien, on voit qu'on est passé d'une dualité simple à une dualité multiple, car c'est une dualité double. Vous savez, là vous avez le 0-0, c'est-à-dire féminin-féminin, le 0-1, le 1-1 et le 1-0. Donc, on a une autre problématique maintenant. C'est-à-dire, avant c'était blanc ou noir, et là maintenant on a blanc, gris clair, gris foncé, noir. Ah! Ça change. Eh oui! Il y a des choses qui ont changé. C'est-à-dire que maintenant, il y a ce que j'appelle du capitalisme collectif. Hein, c'est-à-dire que, grosso modo, on se dit chacun pour nous, mais quand même, on essaye de faire à peu près par rapport à l'ensemble. Hein, c'est-à-dire un peu de le style français. On a la sécurité sociale. On faut que chacun cotise parce qu'on a un boulot. Hein, et puis, en retour, le collectif nous apporte les trucs quand on est dans la mouise. Maintenant, on se rend compte que là, on a un gros problème, c'est que ça ne marche plus très bien. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. C'est que toute la redistribution est basée sur la collecte d'impôts. Or, plus vous avez de chômage, moins le collectif peut prélever, enfin, peut prélever, n'a de ressources pour rentrer. Donc, comme dirait l'autre, vous en avez moins qui bossent et vous en avez plus qui demandent du fric. Le résultat, arrive à un moment, vous êtes forcément en déficit. Et donc, c'est ce qui se passe avec la France depuis belle lurette. Et puis, vous avez ce que j'appelle maintenant le communisme individuel. Ça veut dire que quand vous regardez, par exemple, des États comme la Chine, eh bien, disons que nous sommes dans un pays communiste, mais chacun va quand même essayer de tirer la couverture à lui. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont devenus des capitalistes, mais avec des règles communistes. Et que nous, eh bien, on était des capitalistes qui, quand même, progressivement, se rendent compte qu'il faut qu'on joue collectif, parce que sinon, on a des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a été inventé soi-disant, enfin dire les trucs chômage, la retraite, la sécu, c'est des trucs pour nous mettre des trucs collectifs. Mais vous pouvez voir que ces trucs collectifs sont en train de se barrer en banane pour la simple bonne raison, c'est que le capitalisme est en train de se prendre un coup dans les dents très sérieux. En clair, pourquoi? Parce que pour gagner plein d'argent, eh bien, il faut remplacer l'humain qui n'est pas fiable par des machines qui sont fiables. Et l'autre chose, eh bien, on va jouer sur l'immigration, c'est-à-dire qu'on va, grâce à des communautés comme l'Europe, ben, on va sous-traiter dans des pays à moins cher. Et puis bon, maintenant, on fait sous-traiter partout où on peut. Partout, on va trouver des esclaves qui coûtent pratiquement plus rien. Donc, c'est du capitalisme pur qui fait que il n'y a plus de régulation, véritablement, d'équilibre. Donc là, on voit qu'à ce moment-là, il y a effectivement l'hémisphère nord et le sud qui commencent à mettre son nez sérieusement dans l'affaire. Donc, on se rend compte que dans cette situation, le capitalisme pur ne marche plus. C'est-à-dire que le modèle qui était suivi ici en disant « oui, on va laisser les marchés s'équilibrer, tout ça ». Mais comment vous voulez que les marchés s'équilibrent, par exemple, en Europe, quand tout le monde a la même monnaie? C'est-à-dire qu'avant, les États pouvaient jouer sur, on va dire, la planche à billets, mais là, ils ne peuvent plus. Résultat, eh bien, tu as tout le monde qui s'appauvrit. Et comme on s'appauvrit, bah, c'est simple. Puisqu'on ne dévalue pas notre monnaie, eh bien, les autres pays qui dévaluent leur monnaie, entre guillemets, eh bien, vont pouvoir vous acheter avec du papier photocopie. Voilà. Donc ici, la 3D prend l'eau et la 4D s'installe gentiment. Hein. Quand je dis la 4D, c'est l'aspect féminin des choses. C'est-à-dire, c'est tout l'apport de ces communautés, entre guillemets, qui quand même ont une vision collective des choses. Ils amènent du féminin, bien qu'en allant dans le côté capitaliste. Et nous, bah, capitalistes, bah, on est obligé d'intégrer du collectif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde dit « Oh ouais, il y a des vagues d'immigrants, il faut les accueillir parce que c'est la guerre chez eux. » Ouais, mais bon, on verra un tout petit peu plus loin que tout ça, c'est bien sûr du bidonnage. Alors, l'impérialisme des multinationales est démasqué, c'est-à-dire que là, les gens commencent à comprendre, hein, que, grosso modo, quels que soient les députés ou les sénateurs ou tout ce que vous... Enfin, chaque fois que vous votez pour quelqu'un, vous voyez que, grosso modo, ça ne sert à rien parce qu'il a été totalement corrompu. Ça veut dire que l'État ne peut plus rien faire. Sa souveraineté est terminée. Donc, mettant ainsi en évidence que les politiciens sont sous la coupe de l'économie et qu'ils ne contrecarrent plus du tout les avancées impérialistes de la finance, égale déclin des institutions. Et forcément. Et donc maintenant, eh bien, on se retrouve avec des dettes, bien sûr, colossales, parce que c'est que la finance qui a son mot à dire, entre guillemets. Hein. Alors ici, bah, il y avait donc un système bancaire SWIFT, capitaliste à monnaie unique, se voit mis en concurrence avec un nouveau système composé de multiples monnaies. Grosso modo, tous les nouveaux arrivés, c'est-à-dire les BRICS, hein, principalement. Hein. Alors BRICS, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je rappelle, eh bien... BRICS, c'est les initiales des pays qui participent, qui se sont réunis. Alors, j'ai un trou de mémoire, mais BB, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Bref, le C, c'est la Chine, le R, c'est la Russie, le I, c'est l'Indonésie, le B, c'est le Brésil. Hein, donc, il y a le Brésil. Non, mais ça devient grave quand même. Hein. Vous avez l'Amérique du Sud, enfin bref, BRICS c'est le nom des 5 pays, mais là franchement j'ai un trou de mémoire, mais c'est complètement dingue. On dirait que j'ai pas le droit d'en parler. Donc bref, ils ont mis un nouveau système en place et qui sera, on va dire, totalement opérationnel en fin 2016. Ça veut dire que grosso modo, les Ricains vont perdre la main. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans le système bancaire SWIFT, c'est-à-dire que c'est le système d'échange, on va dire, de monnaie par rapport au monde entier. Et donc, ça veut dire que dès qu'il y a un transfert de monnaie d'une banque à une autre, le SWIFT est au courant. Hein, et il y a ce qu'on appelle les espèces de tampons, qui s'appellent les banques de compensation, un truc comme ça, c'est-à-dire qui vont établir les taux de change et qui vont permettre qu'on puisse échanger du rouble avec de l'euro, etc. Donc, aujourd'hui, quel que soit le mouvement bancaire qui soit fait, eh bien, il est enregistré, forcément, puisqu'il faut bien que ça rentre quelque part dans l'informatique. Donc, dit autrement, tout l'argent de la mafia passe par le réseau SWIFT. Tout l'argent de soi-disant État, XYZ, vous savez, qui est en ce moment le fameux Daesh & Co, là, tous les mouvements financiers sont suivis par les Ricains. Ils sont au courant de tout. Donc, s'ils voulaient vraiment arrêter les choses, bah, ils ont simplement qu'à taper sur le clavier, et puis après, les choses se font plus. Donc, on comprend qu'on nous fait croire des tas de choses, que ça, c'est ceci, ça, c'est cela, mais ils sont financés, et c'est les Ricains qui ont la main absolument sur tout. Donc, quand votre banquier vous dit « Oui, pour des raisons de blanchiment d'argent, vous n'avez plus le droit maintenant de payer plus un bien de plus de 1000 euros en liquide », écoutez, il y a des milliards qui passent de banque à banque, alors que nous, le peuple, on nous fait chier pour des conneries qui nous dépassent totalement. Enfin, bref, on se fait baiser total, excusez-moi le terme. On se fait baiser total au nom d'une raison qui n'existe pas véritablement. C'est de l'argumentation fausse, fallacieuse, enfin c'est vraiment de l'entubage à mort. Et donc ce nouveau système qui est en train de se mettre en place est bien sûr a été lourdement amené par nos amis russes, parce que comme les Ricains ont voulu bloquer la Russie, hein, entre guillemets, eh bien ils ont quasiment interdit aux Russes d'utiliser le SWIFT. C'est-à-dire que d'un seul coup, toute l'économie russe s'est vue, parce que c'est pour ça que l'Ukraine était derrière, c'était pour que l'économie russe tombe à zéro, c'est-à-dire meurt étouffée économiquement parlant. Donc, bien sûr, notre cher Poutine l'a senti, celle-là, et c'est là qu'ils ont dit, bon, on va quand même bouger un peu les choses, parce que là, on commence à être un peu énervé par les Ricains qui ont un contrôle total sur toute la finance de ce monde. Et donc, ça a commencé, bien sûr, à ruer dans les brancards, hein, et la monnaie d'échange d'énergie ne repose plus sur les pétrodollars, mais sur l'or et des monnaies locales des BRICS. C'est-à-dire ISIS, hein. Et donc l'Iran a commencé généralement, donc l'Iran était pour ça, pour soi-disant, on va dire, des trucs de nucléaire. En fait, tout ça, c'est absolument bidon. C'était uniquement, bien sûr, pour étouffer l'Iran, car nous allons voir un tout petit peu plus tard pourquoi l'Iran a été une dent, enfin, je veux dire, quelque chose qu'ils avaient en travers de la gorge chez les Ricains. Bon, ça ne les a pas empêchés les Ricains de demander à l'Iran de foutre dehors Peugeot pour pouvoir aller vendre leur Cadillac et compagnie. Hein. Enfin bon, tout ça c'est que de la baise, mais vous allez voir, c'est normal, c'est Ricain. Alors, donc quand on dit qu'ils sont impérialistes, je peux vous dire qu'ils le sont véritablement, c'est normal. C'est eux qui prônent le capitalisme pur et dur. C'est-à-dire chacun pour sa gueule, et vous imaginez bien qu'il y a 2 ou 3 ans, quand Obama a essayé de faire penser à une espèce de système de sécurité sociale, ça s'est pas bien passé quand même. Hein? Il y a été au forceps, mais sincèrement, ça s'est pas bien passé du tout, du tout, du tout, du tout. Les Ricains, entre eux, ils n'en ont rien à mal. Chacun doit gagner sa vie, et puis si tu crèves, tu crèves. Point barre. Bon, c'est leur système. Mais simplement, ils l'imposent au monde entier. C'est ça la différence. Donc ici, eh bien, je voulais vous parler, bien sûr, de cela, parce que là, j'ai perdu pas le fil, mais disons que vous faire avancer les choses. Donc là, on est passé au G20. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, quand même, c'est dingue. Bon. Eh ben, c'est pas un problème. Parce qu'il est vrai que j'ai tellement de choses à vous dire que des fois, je ne sais plus par quel bout prendre. Alors, maintenant, j'espère que vous avez compris que l'aspect financier, l'aspect dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui, est en fait un aspect de pur 3D, de capitalisme pur et dur, hein, qui dit je prélève tout ce que je peux, et tout ça pour faire du pognon. Et donc, l'arme ultime, entre guillemets, c'est un ensemble de choses, ce sont les multinationales, c'est-à-dire elles sont au-delà de toutes les États-nations, en gros, en clair, eh bien, elles s'implantent dans plusieurs pays et va donc forcément aller faire leur déclaration d'impôt, entre guillemets, faire fuir leurs bénéfices dans les pays à taxes les plus basses, hein, voire les paradis fiscaux. Donc, globalement, même si vous avez des sociétés comme Apple, hein, qui sont censées être américaines, en fait, ils déclarent leurs impôts ailleurs, enfin, ils déclarent, ils font des impôts, mais ils payent quasi que dalle aux États-Unis. Hein. Et donc, c'est pour ça que depuis quelques années, les Américains se sont fait de plus en plus méchants par rapport aux fuites d'argent. Et c'est pour ça que petit à petit, ils ont commencé à demander des primes phénoménales de remboursement et qu'ils ont fait, on va dire globalement, tomber le secret bancaire suisse. Parce que les Suisses, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Donc, derrière, bon, ils sauvent toujours un peu les apparences, mais derrière, donc maintenant, bah, les banques, que ce soit le Crédit Agricole, Société Générale, BNP, ils se prennent des prunes en centaines de millions, voire en milliards, et ils doivent payer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Ricains, ils ont le système SWIFT. C'est pas difficile. Ils disent, voilà, mon coco, tu veux pas payer, t'as essayé de nous blouser, ok, hein, tu veux pas payer, pas de problème, et bien, tu feras même plus un transfert entre de banque à banque parce que tu pourras plus. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans un état où ils ponctionnent tout ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, un maximum. Et donc ils sont devenus, cette année, je vous rappelle que nous sommes en 3, hein, donc ça veut dire résonance avec la 3D, ce qui veut dire que là, je crois que la population mondiale a pris conscience que le capitalisme pur à l'américaine, c'est fini, que c'est un modèle qui n'a plus aucun avenir, et que, grosso modo, il va falloir, comme dirait l'autre, déplumer un peu l'aigle, hein, et on se rend compte qu'en fait, l'aigle, ben, il n'a plus beaucoup de consistance. Donc voilà, ça c'était donc la, on va dire, le petit cours concernant la situation, la géopolitique du changement actuel. Parce que maintenant, je voudrais aborder, dans une autre vidéo juste un petit peu à suivre, le pourquoi des guerres en ce monde. Et croyez-moi que tout ça dépend uniquement de ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire d'un capitalisme sauvage. Et donc ce capitalisme sauvage, c'est-à-dire la finance, amène, on va dire, malheureusement, les États à prendre des décisions concernant, on va dire, les guerres, le déclenchement des guerres, etc., pour tout simplement arriver, on va dire, à survivre. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.